السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs, mes chères mères en islam, cela fait maintenant 2 mois que nous demandions de manière incessante ce dua: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, ou alors wa ballighna ila Ramadan. Depuis 60 jours, nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la barakah, la bénédiction, dans les 2 mois de Rajab et de Sha'ban. Et nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au mois béni de Ramadan, c'est-à-dire de nous donner la vie, la santé et la foi pour être présent, pour répondre présent à ce grand rendez-vous annuel, le rendez-vous annuel de toute la ummah, de toute la communauté musulmane du monde entier, c'est ce mois mubarak de Ramadan. Jusqu'à maintenant, on a vécu 2 jours. C'est aujourd'hui donc le 2e jour de Ramadan de cette année 2009. Et mes chers frères, mes chères sœurs, qu'on soit bien conscients que ces 2 jours que nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre, valent mieux que les 358 jours que nous venons de vivre après le Eid de 2008. On considère qu'on est dans le calendrier lunaire de 360 jours. Depuis le Eid, il y a 358 jours qui sont passés. Et les 48 heures que nous vivons, ces 2 jours-là, mes chers sœurs, valent mieux que les 358 jours qu'on a vécu depuis le lendemain de Eid. Tellement les jours de Ramadan sont importants, tellement les jours de Ramadan sont remplis de vertus, remplis de bienfaits, de fadail pour les musulmans. Ce n'est pas pour rien si une fois, avec les sahaba qui ont rapporté au prophète sallam l'histoire de ces 3 jeunes hommes. C'est un hadith que Ibn Rajab al-Hanbali cite dans son kitab. Il dit qu'il y avait 3 jeunes qui se dépassaient dans l'accomplissement des bonnes actions. Ils faisaient le maximum pour être vraiment, comme on pourrait dire, au top dans la foi, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, 2 parmi ces jeunes, ils ont atteint ce qu'on pourrait dire la consécration. C'est quoi? Ils sont morts dans le chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que ça? Sachant que la personne qui meurt dans le chemin d'Allah, son sang, avant que son sang ne touche le sol, ses péchés sont pardonnés. Alors donc, imaginez la 3e personne, elle se sent, je dirais pas lésée, mais elle a conscience qu'elle a raté quelque chose d'exceptionnel, et que donc ses 2 amis ont eu un grade exceptionnel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 1 an plus tard, ce 3e jeune homme meurt, mais de mort naturelle. Et on voit en rêve ces 3 personnes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit que ce 3e homme, cette 3e personne, a un degré nettement supérieur à ses 2 amis qui pourtant sont morts dans le chemin d'Allah. Alors les sahaba, ils ont rapporté ce récit, ce rêve, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète d'Allah. En ce sens, comment cela se fait-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, il explique pourquoi il est tout à fait normal que ce 3e jeune homme a un grade supérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plusieurs raisons, entre autres: wa adraka ramadan fa qamahu fa walladhi nafsi bi yadihi inna baynahuma la ab'ad mimma bayna as-sama'i wal ard, rawahu Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les raisons, c'est que ce jeune homme qui a vécu 1 année de plus n'a-t-il pas jeûné un Ramadan complet de plus que ses 2 amis? C'est-à-dire, dans son livre de compte, il y a 30 rosas, il y a 30 jours de jeûne de Ramadan en plus que ses 2 amis. Et le Prophète m'a dit que la distance qu'il y a entre le degré qui sépare ces personnes, c'est supérieur à la distance qu'il y a entre Bayn as-Sama et Wal-Ard, entre les cieux et la terre. Tellement le simple fait de vivre 1 mois ou même quelques jours de Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'aucune communauté n'avait eu avant nous. toutes les communautés avaient eu le jeûne. Comme kutiba ala alladhina min qablikum, nous connaissons le tafsir du verset. Toutes les communautés avaient eu le jeûne, le somme de la part d'Allah. Mais aucune communauté n'avait eu un mois de Ramadan avec autant de vertus, avec autant de bienfaits que la umma du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète a dit dans un hadith qui peut paraître étrange à quelqu'un qui n'a pas une approche de la religion. لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Si seulement les gens savaient ce qu'ils obtiennent durant le mois de Ramadan, alors ils auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan. Alors que nous savons que le somme est une action très physique, c'est une action éprouvante, très difficile à vivre. Le tarawih, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de fatigant. Mais malgré ça, le Prophète me dit que si nous savions vraiment qu'est-ce que contient ce mois de Ramadan, nous aurions souhaité que les 360 jours de l'année fut Ramadan. Tellement, mes chers frères, mes chères sœurs, ce mois est rempli de bienfaits. Une fois, il y a un bédouin qui vient voir le prophète et dit « Ya Rasulallah, dullani ala amal, iza amiltuhu dakhaltu al-jannah » au prophète d'Allah, sans salam, montre-moi une bonne action. Si je l'accomplis, j'aurai le paradis. Le prophète va l'expliquer, il faut faire telle ou telle chose. Et parmi les conseils que le prophète salam lui a donné, jeûne le somme du Ramadan. Comprends bien que jeûner pendant le mois de Ramadan est une condition pour accéder au paradis. Et lors du pèlerinage d'adieu, le Hajjat al-Wada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait son dernier sermon. Et là, il va expliquer aux musulmans les dernières choses, c'est-à-dire les choses les plus importantes, sachant qu'il n'y aura plus de réunion de ce genre jusqu'à son départ, son décès. Et le prophète dit « Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum » rawahu tirmidhi, et d'autres choses encore. Craignez Allah, faites vos 5 prières et jeûnez le mois, c'est-à-dire jeûnez le mois de Ramadan, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour, au dernier moment de la prophétie, le prophète alayhi salatu wassalam donne l'emphase sur le jeûne du Ramadan. Ça veut dire que vraiment, c'est un mois exceptionnel. Abu Mama, regarde, dit, « Ya Rasulallah, ayyul amali afdal, quelle est la meilleure des bonnes actions ?» Le prophète répond, « Alayka bis sawm, فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ. Jeûne, ô Abu Umama, car rien n'est comparable au jeûne. Qu'on soit bien conscient qu'il n'y a pas une action qui est équivalent au saum. Il n'y a pas une action qui est équivalent au jeûne. Mais quelles sont donc ces bénédictions qui descendent dans le mois de Ramadan? Alors c'est un rappel, hein, nous avons tous lu les vertus du mois de Ramadan dans Fazal et Amal. Nous savons tous quelles sont les récompenses qu'il y a dans le mois de Ramadan. Mais ce n'est là qu'un bref rappel. Vous savez, le premier programme de Ramadan, le premier dimanche, ça doit être en général un programme général qui recadre un peu, qui ramène les consciences vers l'importance du Ramadan. Alors, Abu Huraira, dans le rapport du hadith très célèbre, le Prophète sallam, qu'on va dire en français, le Prophète avait dit aux Sahaba, le mois de Ramadan est arrivé. C'est un mois béni. Shahrun Mubarak. C'est-à-dire tout ce qu'il y a du premier jour, de la première minute jusqu'à la dernière minute du Ramadan, c'est rempli de ni'mah, c'est rempli de baraka, de bénédiction de la part d'Allah, bénédiction que nous ne retrouverons jamais dans une autre période de l'année, que ce soit un mois, que ce soit un décade ou une nuit, jamais nous ne retrouverons autant de bénédictions que durant ce mois de Ramadan. Tuftahu fihi abwab al-jinan. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Le seul moment de l'année où les portes de l'enfer sont fermées, mes chers soeurs et mes chers frères, c'est durant le mois de Ramadan. Et les shayatins sont emprisonnés. Jamais il y a un autre moment de l'année où Shaytan est emprisonné. Même le jour d'Arafat, Shaytan il se jette de la poussière sur les cheveux, sur ses cheveux. Mais il n'a pas été stipulé, wallahu alam, que Shaytan est emprisonné. Ça c'est vraiment quelque chose de spécial pour les 30 jours du mois de Ramadan. Durant ce mois, le passage, il contient le hadith, Allah vous couvre, vous comble de sa rahma, de sa bénédiction, de sa clémence. وَيَغْفِرُ فِي الْخَطَايَا. Et Allah Ta'ala pardonne les péchés. وَيَسْتَجِبُ فِي الدُّعَا. Et Allah Ta'ala accepte les doigts. Ces trois choses, bénédiction, pardon et acceptation des doigts, nous pouvons les retrouver durant toute l'année. Mais à un tel degré, à une telle intensité, jamais mis à part durant le mois de Ramadan. Autre hadith, le paradis s'embellit. من الحول إلى الحول لدخول رمضان. Lorsque le Ramadan arrive, le paradis aussi, il y a un changement dans le Jannah. Et le paradis s'embellit à chaque fois que le Ramadan arrive. Dans ce mois, mes chers sœurs, il y a une rétribution pour les actions que nous ne retrouvons pas ailleurs. Raka'atun fihi afdalu min alf raka'at. Une raka'at qu'on accomplit vaut mieux que 1000 raka'at, c'est-à-dire durant les 11 autres mois de l'année. Et d'une manière générale, le Prophète avait dit que les actions du jeûneur sont muda'af, sont multipliées. Abu Bakr ibn Maryam dit un tasbih, un subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dans le mois de Ramadan, vaut mieux que 1000 tasbih en dehors du mois de Ramadan. Dans cet hadith, Nawmu as-sa'imi ibada. Je vous dormais, c'est également ibada. Le jeûneur dort, c'est également décompté comme un acte d'adoration. Lorsqu'on se réveille pour le suhur, le sihri, on mange. C'est pas grand-chose, on mange. On est en train de se restaurer. Là aussi, c'est un ibadat. Les anges envoient les salutations et font doua et maghfira, demandent pardon à Allah pour ces musulmans qui sont réveillés à 4h ou 5h du matin, qui ne sont pas en train de faire tahajjud, qui ne sont pas en train de pleurer pour demander pardon à Allah. Ils sont en train de se restaurer, faire le sihri. À ce moment-là, les anges demandent pardon à Allah pour nous. Et mes chers frères, mes chères sœurs, si dans le mois de Ramadan, à l'heure de tahajjud, l'heure où les doigts sont le plus acceptés, les malaïkas, les anges, les créatures les plus pures, ils demandent à Allah de nous pardonner. Assurément qu'Allah Ta'ala accepte le doigt de ces anges, de ces malaïkas. Également, lorsqu'on est réveillé pendant le sihri, pendant 30 jours, on peut au moins être sûr que pendant 30 jours, pendant au moins 40 ou 45 minutes, le temps qu'on a besoin pour manger, Allah Ta'ala nous aime. Quand le Prophète m'a dit « Tasaharu, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَسَحِّرِينَ » C'est déjà suffisant ça. S'il n'y avait que ce hadith, ça aurait été déjà suffisant comme bienfait. Allah aime ceux qui prennent le sihr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me réveille de 4h30 à 5h20 pour manger, ben Allah il m'aime durant cette période. C'est déjà une récompense sublime, extrême pour le musulman que de savoir que Allah Ta'ala m'aime tous les jours durant cette période. Et quand on rompt le jeûne, nous avons la promesse d'Allah, du Prophète, qu'il y a au moins un doigt qui est qaboul, au moins un doigt qui est absolument accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Également durant ce mois, Allah il délivre en quantité les gens du feu de l'enfer. Et qui sont ces gens qui sont délivrés du feu de l'enfer? Tafsir d'Ibn Abbas, kulluhum qad istawjibu al-adab. Ce sont des gens pour qui Allah Ta'ala avait déjà destiné l'enfer. Les musulmans, bien sûr, qui à cause de leur péché, Allah Ta'ala avait prévu de les faire châtier dans le Jahannam, mais durant ce mois, Allah les délivre. Par la baraka du Ramadan, Allah enlève leur nom de ces gens qui vont aller en enfer pour être punis. Donc, mes chers soeurs, mes chers frères, on a conscience, nous devons plutôt prendre conscience que nous vivons un mois unique, c'est exceptionnel, mais Allah Ta'ala attend de nous quelque chose. Déjà une prise de conscience, c'est ce qu'on essaie de faire en citant les vertus que nous connaissons plus ou moins du Ramadan. Allah Ta'ala attend quelque chose de nous, qu'on fasse un effort. Le hadith, lorsque le Prophète annonçait aux Sahaba la venue du Ramadan, disait également « Fa'addu fihi anfusakum khayran » Dépassez-vous mutuellement, faites le maximum de bonnes actions, mes chers frères, mes chers soeurs. Ce Ramadan doit être vécu pas uniquement dans la faim, dans la soif, dans la fatigue. Ce Ramadan doit être vécu dans le juhd, dans les actions, dans les a'mal. C'est ça le Ramadan. Un musulman qui vit ce mois béni, qui consacre l'essentiel de son temps à l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors, comme on a vu, autant de bienfaits qu'Allah nous accorde durant ce mois béni. Alors, vous savez, il y a deux, on ne va pas entrer dans le détail, il y a deux catégories de périodes et d'endroits. Il y a ce qu'on appelle Sharaful Makan et Sharaful Zaman. Il y a des endroits qui sont bénis. Si vous y êtes, vos actions se multiplient, Allah vous récompense plus. Si vous y mourrez, vous avez un rang spécial. Comme Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara. Qu'Allah nous donne la mort dans un de ces deux lieux saints, Inch'Allah. Ou alors le laps de temps de Arafat, en dehors du 9e jour, Arafat est un désert sans vertu. Le laps de temps
du Arafat dans le pain de terre dans le désert de Arafat. Mais à chaque fois qu'Allah il fixe des vertus spéciales pour un endroit, il faut savoir que c'est un peu à double tranchant. Si nous ne respectons pas l'endroit, alors il y a des mises en garde sévères. Vous savez qu'en temps normal, quelqu'un fait un péché, tant que vous ne le faites pas, vous avez l'intention, vous n'êtes pas puni. Mais à Makkatul Mukarrama, le niyat de faire des choses obscènes et mauvaises, c'est déjà sababul azab. C'est déjà, on est déjà péché. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِالْظُلْمِ لُدِيْهِ بِالْعَذَابِ الْعَلِيمِ وَمَنْ يُرِدْ, celui qui veut faire. Ce concernant Makkah, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'il y a Sharaful Makan, c'est un lieu spécifique. Pour Ahlul Madina, pareil. Celui qui ose, celui qui a le projet, qui veut faire du tort aux gens de Madina, Allah le détruit. Allah le détruit comme le sel se dissout dans l'eau. C'est pas, il n'a rien fait encore. Celui qui a l'intention de faire. Et les ulama disent que ça c'est spécifique au lieu saint. Par le niyad, vous êtes puni. Alors qu'en temps normal, si vous faites le niyad, vous n'êtes pas puni tant que vous n'accomplissez pas. Voyez, ça c'est la règle. Maintenant pareil pour Sharafuz Zaman, pour les périodes spécifiques comme le mois de Ramadan. Nous avons les récompenses que nous venons de citer, mais attention. Attention à une personne qui ne profite pas de ce mois. Attention à ce qu'une personne vive ce mois comme janvier, février ou mars ou un autre mois de l'année, qui pense que ben on mange pas, on ne boit pas, basta. Et qui ne contrôle pas son regard, qui ne contrôle pas sa langue, qui ne contrôle pas ses faits et gestes, qui ne s'efforce pas de se rapprocher d'Allah, qui ne s'efforce pas de demander pardon à Allah, qui ne se met pas dans une situation favorable pour accueillir à bras ouverts la bénédiction d'Allah qui descend dans ce mois mubarak. Le prophète m'a dit fa inna ash-shaqi kullu ash-shaqi man hurima fihi rahmatullah. Malheureux, infortuné ce musulman qui se verra privé de la rahmat d'Allah durant ce mois. On vient de dire que la rahmat d'Allah descend am pour tout le monde. Tout le monde a tort, mais il suffit de lever les deux mains pour obtenir. Le moins, il faut faire un minimum d'effort pour absorber cette bénédiction qui descend. Mais celui qui vit ce mois comme un autre mois de l'année, sans faire le moindre effort, alors là, c'est grave. Mise en garde sévère, c'est le plus malheureux, celui qui n'a pas fait cet effort pour obtenir la bénédiction d'Allah. Et plus grave encore, le prophète monte une fois sur le minbar. Il a dit Amin, Amin, Amin. C'est des hadiths qu'on connaît, on ne va pas entrer dans le détail. Et il s'est dit au prophète d'Allah, pourquoi vous avez dit Amin trois fois? On n'a vu personne. Le prophète m'a dit que Jibril a.s. est venu me voir et il a cité trois choses. Il a dit au prophète d'Allah, dis Amin. Trois malédictions. Vous croyez que Jibril, il a le tempère, il vient, il donne un badoua, il s'en va. Il y a d'autres choses à faire, Jibril. Depuis les premiers Anbiya, il est là pour descendre, pour amener les révélations, les wahi. Jibril a été envoyé spécialement pour ça. Pour citer trois cas de figure, trois personnes qui sont maudites. Et parmi ces trois personnes, Jibril a cité ce musulman qui vit ce Ramadan et qui n'obtient pas le pardon d'Allah, qui ne profite pas donc de ce mois pour obtenir les récompenses et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit au prophète d'Allah, dit Amin, et le prophète a dit Amin, qu'Allah nous protège. Imaginez Jibril, le meilleur des anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures même, et Madina Munawwara, la meilleure des villes, le Masjid Nabawi, sur le mimbar de la Masjid Nabawi, un tel badoua, une telle malédiction, la'na, prononcée par Jibril, dans ce lieu pur, et attestée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assurément c'est grave. Celui qui ne comprend pas la valeur, qui ne fait pas des efforts, alors on a de quoi se faire du souci. Taïb ? Alors, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend exactement de nous ? On va développer trois points. On va être assez. C'est bref, Inch'Allah, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend exactement de nous durant ce mois de Ramadan? Vous savez que quand on fait namaz, on fait la salat, Allah Ta'ala attend de nous quoi? Al-khushu' al-khudu', la dévotion, la lecture des versets, et que ce namaz ait un effet sur notre cœur. Inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar, qu'avec cette salat, on peut rester éloigné des péchés. Mais pour le jeûne également, chaque ibadat a un maqsad, un objectif, un but. Est-ce que l'objectif du Ramadan, c'est qu'on soit fatigué, affamé, assoiffé? Lorsque Allah Ta'ala a envoyé le verset, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'Allah Ta'ala a dit la'allakum tajou'un, afin ceux qui ont la foi, Allah vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit aux autres communautés, la'allakum, afin que quoi? Pour que vous ayez faim? La wallah. Afin que vous ayez soif? Afin que vous soyez fatigué, harassé? Non, Allah n'a pas besoin qu'on ait faim. Enfin, il est rani anna. Il n'a pas besoin de voir ses créatures souffrir, affamées, assoiffées, fatiguées. L'objectif, c'est quoi? La'allakum tattaqoun. L'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la piété. Et qu'on comprenne bien, si le musulman n'a pas recherché la piété à travers les trois axes qu'on va développer, accomplissement des bonnes actions, éloignement du haram, et on pourrait rajouter obtention du pardon d'Allah pour que les péchés soient effacés, alors ce musulman-là, sûrement, il n'atteindra pas la piété. Et dans cet hadith, il est précisé qu'il y a bien des jeûneurs qui n'ont rien d'autre, qui n'obtiendront rien d'autre de leur jeûne et de jeûne, si ce n'est al-jour ou al-atash, si ce n'est la faim et la soif, le sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens comme vous et moi qui ne mangent pas de sihir jusqu'à iftar, mais n'ont pas compris la valeur du jeûne. Ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire et ils n'ont pas su s'éloigner de ce qu'il fallait s'éloigner. Qu'Allah nous protège. Donc on comprend bien, deux musulmans, un qui jeûne sans comprendre, il n'atteindra pas forcément la piété, et l'autre qui jeûne en comprenant c'est quoi le jeûne, il recherche la proximité, at-taqarrub ila Allah, et il obtiendra un degré, un niveau de taqwa, de crainte d'Allah dans son cœur, et là l'objectif du jeûne sera atteint. Et comment atteindre cet objectif du jeûne? C'est par les trois axes. Premièrement, l'accomplissement des bonnes actions. Alors, qu'on comprenne bien, quand on dit accomplissement des bonnes actions, ça ne veut pas dire que durant 11 mois de l'année, je ne fais rien. Et arrivé le mois de Ramadan, je me mets au travail. Je commence à faire salat. Je vais dépoussiérer mon Coran dans le buffet et je vais commencer à lire. Je prends mon tasbih et je commence à faire l'ibadat de tahajjud. Wallah. C'est pas ça, mu'min. Le musulman, c'est qui? C'est al-mustaqim, celui qui toute l'année, 11 mois de l'année, il fait ses ribadats. Il est régulier de ses ribadats. Mais arrivé le mois de Ramadan, il va redoubler d'efforts. Arrivé le mois de Ramadan, ce musulman va faire encore plus de salat, encore plus de dhikrullah, encore plus de tilawat al-Qur'an, donner encore plus de sadaqa, etc., etc. C'est ça le mu'min, c'est ça la relation du mu'min avec le Ramadan, concernant l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors parmi ces bonnes actions que le musulman doit faire, bien sûr, il y a le jeûne, le rosa. Et on va essayer de voir si on a le temps de développer c'est quoi un jeûne complet. Ben, tout simplement, le jeûne complet, on le verra, c'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas de relation, ça c'est le masla. Et en plus, s'éloigner de tout ce qui est haram, ça va expliquer dans un problème. Deuxième chose sur lequel nous devons faire le maximum d'efforts, c'est l'accomplissement de nos salats. Ça va de soi. On n'imagine pas un musulman qui rate un namaz volontairement durant le mois de Ramadan. Déjà, toute l'année, c'est inimaginable. C'est un motif d'accès direct au Jahannam. C'est un motif pour que les comptes soient durs le jour de Qiyama. Alors, n'en parlons plus durant le mois Mubarak de Ramadan. Et en plus de ces 5 salats qu'on accomplit toute l'année, Allah nous a donné quoi en plus de cela? Le salat au Tarawih Qiyamul Layl. Et ça, c'est un cadeau de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le temps, mais si on devait développer les sawab, les récompenses que nous avons pour le Qiyamul Layl, plus personne ne raterait le Qiyamul Layl, et plus personne, que ce soit homme, que ce soit femme, ne trouverait lourd ces 20 rakat de Tarawih. Troisième action sur laquelle nous devons faire le maximum d'efforts, tilawat al-Qur'an, la lecture du Qur'an. Vous savez, le prophète sallam, il donnait une importance particulière à la lecture du Coran durant l'année, bien sûr, et particulièrement durant le mois de Ramadan. Même si nous avons du mal à lire le Coran, il y a beaucoup de gens qui disent, ça a écorché. Il y a des gens qui disent qu'ils pensent que c'est un manque de respect que de lire mal le Coran, donc ils ne lisent pas. C'est une grave erreur. Le prophète a expliqué à Hadith que celui qui lit, comme il le faut, alhamdulillah, la personne est récompensée. Celui qui lit avec des difficultés, il répète, il a besoin de revoir le mot parce qu'il se trompe, il ne reconnaît pas le ha, du kha, du jim, autre chose, cette personne a deux récompenses. Elle est doublement récompensée pour la lecture et pour l'effort qu'elle va faire. Donc, quel que soit notre niveau, de maîtrise du Coran, qu'on soit qari, sabaa, ashara, ou qu'on soit simple lecteur, ou qu'on ne maîtrise pas trop le Coran, malgré ça, nous devons nous efforcer de lire le maximum du Coran durant ce mois de Ramadan. Le Prophète a dit "As-siyam wal Quran yashfa'an lil-'abd yawm al-qiyamah." Le jeûne et le Coran intercéderont pour le musulman le jour de Qiyam. Le jeûne dira "Oh Allah, mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar." Oh Allah, à cause de moi, ce musulman, il s'est abstenu, il s'est éloigné de ses plaisirs durant les matinées. Et le Coran dira "Oh Allah, par rapport à ma lecture, hein, mana'tuhu an-nawm bil-layl." Je l'ai empêché de dormir par rapport à ma lecture, il a passé ses nuits à me lire, à lire le Coran et fashaf'ni fihi fayushaffa'an. Demanderont "Oh Allah, donnez-nous la possibilité d'intercéder pour lui." Fayushaffa'an, et Allah Ta'ala autorisera. Parce que le jour de Qiyamah, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. On n'intercède pas sans l'autorisation d'Allah, et Allah Ta'ala autorisera au jeûne, c'est-à-dire au saum, au jeûne, au carême et au Coran, d'intercéder pour le lecteur et pour donc le jeûneur. Action extrêmement importante que la lecture du Coran toute l'année et principalement durant le mois de Ramadan. On a dit tout à l'heure, même si on lit mal, mais ça ne veut pas dire qu'on va garder ce rythme, hein. Ça c'est un autre sujet. À nous d'essayer de nous rapprocher d'un qari ou d'une personne qui a les compétences pour nous aider à élever notre niveau de lecture. Ça c'est pour ceux qui ont des difficultés. Maintenant, pour monsieur tout le monde qui a été à la madrasa et qui lit le Coran couramment, il y avait un alim qui était là, qui était de passage il y a quelques mois, il avait dit une parole, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit, je n'ai jamais compris pourquoi les musulmans ont arrêté d'apprendre le Coran. Ça veut dire quoi? Logiquement, quand on a fait un khatam, qu'on est madrasa, ça veut dire qu'on sait lire les 30 juz, oui ou non, on connaît lire. Parfois, il y en a même qui sont hafiz, alhamdulillah. Parfois, il y en a même qui maîtrisent, qui connaissent le tafsir, alhamdulillah. Il a dit, mais pourquoi, comment ça se fait qu'un musulman, il se dit que maintenant, il gagne le Coran, ou il est hafiz, bah, c'est suffisant. Je suis hafiz, bah, je fais tarawih, bah, c'est bon, je ne fais pas de faute, tant mieux. Là, wallah, ce n'est pas suffisant. La relation que le musulman doit avoir avec le Coran, ça doit être une relation dans la progression. Depuis le jour où il sait lire, jusqu'à sa mort, on doit apprendre le Coran. C'est-à-dire, vous connaissez, vous savez lire, maintenant, allez à la recherche du ma'an et le Coran. Apprenez qu'est-ce qu'Allah Ta'ala vous dit de ce Coran. Comment est-ce possible qu'une personne à 60 ou 70 ans, ça n'a jamais passé par son esprit de rechercher le sens de l'Fatiha, le sens, le ma'na, le tafsir de Surat al-Ikhlas, le tafsir de Surat al-Nas, etc., etc. Le musulman se doit d'apprendre le Coran, de garder un lien permanent et progressif avec le Coran. Mes chers frères, mes chers sœurs, comment pouvons-nous espérer atteindre des hauts degrés de iman, kamal iman? Comment pouvons-nous espérer, mais rêver d'être protégés des fitnas, des péchés et des sources de turpitude si nous n'avons plus recours au Coran? Alors que le prophète a dit que je vous ai laissé deux choses, le Coran et ma sunna. Celui qui s'y accroche, il ne sera jamais perdu. Mais s'accrocher au Coran, c'est quoi? C'est pas juste le lire comme on lit un poème ou on lit quelque chose en arabe, un journal en arabe qu'on ne comprend pas. C'est lire et avoir un contact, un lien avec ce Coran, qu'il y ait une connexion entre notre cœur et le Coran par le biais de la compréhension. Si nous comprenons l'arabe, khair wa ni'ma, autrement il y a des tafsirs qui se trouvent, hein, qui sont traduits en français, ou la moindre des choses, la tarjama, la traduction du Coran, à nous d'essayer d'aller vers le Coran et d'imprégner notre cœur d'amour pour ce livre par le biais de tadabbur. Afala et tadabbaruna le Coran. Allah y reproche ces gens qui ne font pas tadabbur, qui ne méditent pas sur l'essence du Coran. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Également, autre point, ce sera le dernier point parmi les bonnes actions, la sadaqa. Donner le maximum de sadaqa. Et le prophète avait répondu à Anas ibn Malik, au prophète d'Allah, ayu sadaqa afdal. Quelle est la meilleure des sadaqa? La sadaqa tu fi Ramadan, rawah al-Tirmidhi. La sadaqa que tu donneras durant le mois de Ramadan. Si durant toute l'année, on a l'habitude, je ne sais pas, de donner 20 euros de sadaqa tous les mois, mes chers frères, donner 40, donner 100, donner 200. Si vous pouvez donner 2000, wallahi l'azim, donner. Parce que cette sadaqa-là, vous verrez son effet le jour de Qiyamah. La sadaqa du Ramadan, c'est autre chose. C'est un autre niveau, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Tellement, et la meilleure des sadaqas, certains disent que oui, mais j'ai entendu, il y avait, subhanallah, des collègues qui ont été voir des personnes pour financer une mosquée qui doit être construite dans un endroit un peu retiré. Hein, la personne dit, mais là, on est en crise. Période de crise, personne ne peut vous donner. Mais il a donné quoi, 50 euros. Quelqu'un de riche. Elle dit, personne ne peut vous donner à votre façon. Elle dit, là, c'est la crise. Wallahi l'azim. C'est dans ces moments-là qu'Allah impulse la sadaqa. Wa anta sahihun shahih. Son hadith, que quand on donne, on est en bonne santé, qu'on veut la richesse et qu'on craint la pauvreté. C'est là qu'Allah il aime. C'est pas quand on a le compte plein, on donne 10 euros, c'est rien ça. C'est quand vous êtes arrivé au 28 du mois, là, c'est un petit peu raide, il reste 200 euros. Si il reste 200 euros, c'est quand même pas mal. Si il reste 100 euros dans le compte au 28 du mois et qu'il y a un pauvre qui a besoin de quelque chose, vous lui donnez 10 euros, 20 euros, Wallah, et ça c'est aimé par Allah. Faïf, donner le maximum de sadaqa durant ce mois de Ramadan. Et quand on fait ces actions, Coran, Saum, Salah, Sadaqa, etc., etc., on le fait avec niya de istiqam. On dit, oh Allah, donne-moi tawfiq de faire ces actions. Et oh Allah, donne-moi tawfiq de continuer à faire ces actions même après Ramadan. Dans la relation avec les ibadat, le musulman qui ressort vainqueur de ce mois de Ramadan, c'est qui? Celui qui, de 2008 à 2009, c'est-à-dire l'après-Ramadan 2008, sera différent de l'après-Ramadan 2009. Il va voir dans sa vie tous les jours un quota de bonnes actions supérieur. C'est-à-dire, je progresse d'année en année dans mes amal. Si en 2008, j'avais l'habitude de lire un quart de sifara par jour, après Ramadan, mais pas dans Ramadan, en dehors de Ramadan, en 2009, au mois de Shawwal et après, je vais lire un demi-sifara. Et en 2010, Inch'Allah, 3 à 4. C'est-à-dire, progresser dans les bonnes actions. Donc, niyat de istiqama et de progresser, de ressortir, grandir de ce mois dans l'accomplissement des bonnes actions. Ça, c'était le premier point. Il reste deux points. Deuxième point, nous aurons la taqwa, on a vu avec l'accomplissement des bonnes actions, nous aurons la taqwa, nous allons donc tahqiq al-maqsoud, comme on dit. Nous allons réaliser l'objectif du Ramadan, nous, à partir du moment où on délaissera le haram. N'est pas jeûneur celui qui ne délaisse pas les interdits. Vous voyez qu'on a vu dans le hadith tout à l'heure, il y a des gens qui n'auront rien d'autre que le jeûne, c'est celui de la faim et la soif. Vous voyez que c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas comme nous, mais pour lui, il vit normalement. Les mêmes habitudes, tout ce qu'il fait, Allahu a'lam, il continue à faire. Vous voyez? Donc, ça, délaisser le haram, c'est une condition, charte, pour obtenir la taqwa. Car le prophète m'a dit, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan. Celui qui délaisse quelque chose, mes chers frères, délaisser quelque chose de haram pour Allah, c'est une action immense. Ce n'est pas pour rien que ce prophète m'a expliqué que quelqu'un qui a l'intention de faire un péché et qui réfléchit deux fois et qui décide de ne pas le faire, non seulement il n'a pas de péché par rapport à son intention, mais en plus Allah Ta'ala le récompense pour le fait d'avoir délaissé un péché. Et le prophète m'avait dit, le hadith m'a dit tout à l'heure, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, j'ai envie de regarder telle chose haram, je ne le fais pas pour Allah. J'ai envie de faire telle chose interdite, je ne le fais pas pour Allah. J'ai envie de dire telle bêtise, j'ai envie de dire telle ribat, il y a quelque chose qui me passe par la tête, je suis à telle personne, j'ai envie de le dire, je ne le fais pas pour Allah. Je me contrôle, j'abandonne ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il faut savoir que dans chaque haram, c'est une parenthèse qu'on fermera rapidement, dans chaque haram, il y a un délice. Et ça, c'est le piège de Shaytan. Dans chaque chose interdite, il y a un délice. Faire ibad namadia. S'asseoir et parler de M. X, Y, Z, quoi il a fait, quoi il a dit son famille, son belle-mère, etc. Tout ça, ça fait plaisir. On aime ça. On aime raconter ce genre de choses. Faites, etc., etc. Dans tout péché, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a un délice que Shaytan essaie de nous faire goûter. Faites, celui qui délaisse ce délice pour Allah subhanahu wa ta'ala, عوضه الله خيرا من الله تعالى lui accordera quelque chose de mieux. Il ne s'est même pas précisé. Et Allah seul sait qu'est-ce qu'il va nous donner. Je vais faire telle chose qui est haram. Je dis non, Allah me voit, je ne vais pas le faire. Allah ta'ala vous donne quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer. Concernant un exemple qui a été détaillé cette fois-ci, Rabdul Basar, le fait de contrôler son regard. Vous savez, contrôler son regard, en général, on stigmatise les hommes. Il faut baisser le regard, on ne regarde pas madame. Mais c'est dans les deux sens. Il y a également dans les deux sens. Dites aux musulmans, c'est-à-dire aux hommes, de baisser leur regard, mais également aux femmes de ne pas regarder les hommes. Dans les deux sens. Le prophète a expliqué que celui qui baisse son regard par amour et par crainte d'Allah, Allah Ta'ala accordera à ce musulman نور يجد فيه حلاوة الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى accordera ce musulman ou à cette musulmane une lumière. Et avec cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Avec cette lumière, vous allez trouver la douceur de la foi. C'est-à-dire que quand vous avez le iman de votre cœur, quand vous accomplissez les bonnes actions, c'est là que vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est un ni'mat exceptionnel. Aimer le ibad, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un cadeau exceptionnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment délaisser le haram? Quand on s'y est habitué, c'est tout simple. Une prise de conscience. Chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose de pas bien, on doit mettre en pratique ce qu'on appelle le muraqabatullah. Pensez toujours qu'Allah ta'ala me voit, qu'Allah ta'ala m'entend, et que aux deux côtés de mes épaules, il y a deux anges qui, depuis le jour où je suis baligh jusqu'à ma mort, ils sont là pour inscrire la totalité de ce que je vais dire, la totalité de ce que je vais faire. Vous voyez ? Ils sont là assis. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont pas d'autre objectif que d'écrire la totalité de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va dire. Dans certains hadiths, certains riwayat, il même dit que le jour de Qiyama, on demandera à une personne un pas qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait à travers ce pas. Quand je marche, est-ce que c'était un pas pour aller vers un endroit saint, masjid, madrasa ou autre chose, un pas à travers lequel je recherchais le contentement d'Allah, ou alors c'était un pas à travers lequel je recherchais quelque chose d'interdit. C'est-à-dire, même un pas que vous avez fait avec vos pieds, là-dessus aussi il y aura hisab, là-dessus aussi il y aura des comptes à rendre. Qu'on soit conscient, en plus de ces deux anges, qu'Allah Ta'ala a des groupes de malaïka qui se relaient le matin et, selon certaines sources, à l'heure de Asr. يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ malaïka. Et les anges du matin, ils remontent à l'heure de Asr, et ils vont dire à Allah, ils font le rapport, qu'est-ce que Ibrahim, Moussa, Isa, Elias, qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action et comme péché. Et Allah, il sait déjà ce qu'on a fait. Mais ça, c'est le tertib, l'organisation de la création d'Allah. Et les anges de l'après-midi, ça c'est les anges du Fajr, et les anges de Asr, ils remontent le matin, et disent que durant la nuit, qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action et qu'est-ce qu'il a fait comme péché. À nous de nous prendre conscience, est-ce que ça nous fait rien de savoir qu'Allah Ta'ala, il voit, il nous observe et qu'il nous voit de le haram. Si chaque musulman essaie de développer la présence d'Allah dans son cœur, cette conscience qu'Allah Ta'ala nous voit, alors, Inch'Allah, par le biais de cela et en demandant à Allah de nous aider, nous pourrons arriver à cet objectif, délaisser totalement le haram. Et il faut que ce Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, soit une madrasa pour nous. Ça ne doit pas être juste un mois de ibadat, ça doit être une école, un centre de formation dans lequel nous allons apprendre à nous habituer au ibadat avec istiqama, nous allons habituer à abandonner, à délaisser le haram, et nous allons nous habituer à contrôler notre nafs. J'ai envie de manger, je ne mange pas parce que je jeûne. J'ai envie de boire, je ne bois pas parce que je jeûne. Mais également, j'ai envie de faire telle chose de haram, je ne le fais pas parce que je suis mu'min. Parce que je crois en Allah et j'aime Allah, j'ai l'amour pour Allah dans mon cœur et j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur. Donc je m'abstiens, je contrôle mon nafs. Nous devons ressortir de ce Ramadan avec des acquis, comme si on sortait d'un stage intensif où on apprend là les ibadat, délaisser le haram et contrôler notre cœur, contrôler notre nafs. Et quand on parlait tout à l'heure, on avait oublié de préciser, le jeûneur complet, celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, taïb, mais celui dont le cœur également jeûne. Il y a un aspect, c'est quoi un cœur qui jeûne? C'est un cœur dans lequel, un cœur duquel, dans le mois de Ramadan, nous allons enlever tout ce qu'il y a comme orgueil, comme fierté, comme souvan, comme haine pour nos prochains, comme mauvaise pensée qu'il y a de ce cœur pour nos prochains, la jalousie. Nous essayons de débarrasser notre cœur de tout ce qui est mauvais. Également, le jeûneur complet, ce sera celui qui jeûnera également avec sa langue. Ça, c'est plus ou moins clair. Vous voyez, pas de ribat, pas de bohdan, pas de calomnie, pas de médisance. On ne rapporte pas, on ne colporte pas, pas de qila waqal. On évite de parler, et si on parle, c'est uniquement pour dire quelque chose de profitable. Même les paroles inutiles, on essaie d'éviter. Parce que mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas une action, il n'y a pas un membre de notre corps qui nous est plus préjudiciable que la langue. Dans un des hadiths, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَفَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Est-ce que les gens ne sont pas précipités, les gens ne sont-ils pas précipités face première de le Jahannam, si ce n'est à cause de leur langue? Il n'y a pas des paroles. Et des fois, on dit des choses qu'on n'imagine pas. Dans cette riwayat, il dit qu'une personne peut être pieuse, avoir accompli une vie de bonne action, mais par une parole tellement déplacée et tellement détestée par Allah, Allah Ta'ala le précipite dans les abysses, dans les abîmes de l'enfer, qu'Allah nous protège. Une personne, il vit dans le ta'a, dans le bénissant d'Allah, mais il a dit une fois une parole tellement détestable, Allah Ta'ala a tellement détesté cette parole, qu'Allah Ta'ala précipite ce musulman, ce mu'min, dans les plus profonds gouffres de l'enfer, qu'Allah nous protège. C'est pour ça que le prophète avait dit que la langue, faut faire extrêmement attention. Voyez, donc ça c'est le jeûneur complet qui sait contrôler sa langue durant le mois de Ramadan et avec istiqama toujours niyat de rester ferme dessus que durant toute l'année je contrôle ce que je vais dire. Également celui qui jeûne, les yeux qui vont jeûner, ce seront ses yeux qui seront restés baissés, qui seront être utilisés uniquement pour ce qu'Allah Ta'ala a rendu licite. Le prophète m'avait expliqué que le regard c'est une flèche masmoum min siham iblis. C'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaitan. Donc, ce sont là les deux points sur lesquels nous devons faire le maximum d'efforts, l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Et en 5 minutes, ça va être assez rapide. Au moins, on va faire 50 minutes. On ne va pas compléter une heure entière pour ne pas être trop long. Ça y est. Également, la troisième chose pour atteindre, le troisième axe, pour atteindre l'objectif de la taqwa dans le mois de Ramadan, faire en sorte que ce qui reste de notre livre de compte soit effacé par le biais de quoi? Par le biais d'un tawbatun nasuha. Mes chers frères, jamais Allah Ta'ala ne pardonne autant que durant ce mois de Ramadan. Alors sachons profiter lorsque les portes sont grandes ouvertes, les portes du tawba, demandons à Allah Ta'ala le plus possible pardon durant ce mois de Ramadan. Le prophète me disait que toute l'année, le prophète me demandait plus de 70 fois istighfar par jour. N'en parlons plus maintenant durant le mois de Ramadan. Et le tawba, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas de limite dans le temps, si ce n'est l'agonie et si ce n'est lorsque le soleil se lèvera, c'est-à-dire avant le qiyama. Voyez, il n'y a pas de limite sur le plan quantitatif. Il ne faut pas qu'un musulman il se dise que moi j'ai fait trop de péchés. Maintenant j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, j'ai fait trop de bêtises. Il n'y a plus besoin de demander pardon à Allah. Quel visage je vais présenter auprès d'Allah avec 50 ans de péchés? Là, wallah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et le mot jami'a, il est idéal. C'est-à-dire que Allah, il pardonne tous les péchés. Mis à part le shirk, bien sûr, vous pouvez dire, Allah, il est capable de pardonner la totalité de le péché, à condition que nous sommes sincères de notre repentir. Et le musulman ne doit jamais désespérer de la clémence d'Allah. Vous savez l'histoire, on va pas entrer des détails, ce grand meurtrier, ce serial killer, on pourrait dire, c'est un psychopathe, il avait tué 99 personnes, et il va voir un alim, il va voir, non, un homme pieux, si je ne me trompe pas, un alim, les alims peuvent se tromper, il va voir, il dit, ben, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ah, oh, trop tard, Allah, il va te punir, 99 personnes de tuer, hein, c'est fini pour toi. Ah, il a tué, il dit, bon, il aime faire le travail propre, il a des chiffres ronds, il fait 100, il va voir une autre personne, là, il a dit, voilà, va à tel endroit et tout, fais telle chose, là, te pardonnera. Bien que le alim qui lui a donné cette fatwa, il s'est trompé. Il a douté de la miséricorde d'Allah. Il y avait une fois une personne qui avait dit, le prophète avait expliqué, il dit que toi, jamais Allah ne te pardonnera. Allah Ta'ala punit ce mu'min parce qu'il a osé douter de la clémence d'Allah et Allah Ta'ala a puni ce pécheur qui avait l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez dans les textes, dans les versets du Coran qui parlent du pardon d'Allah. On aurait aimé développer ça, mais on va pas prendre trop de temps aussi. Lorsque Allah dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum man yukaffira ankum sayyi'atikum. » Et à la fin, Allah dit, « Wa yudkhilakum jannatin tajrim tahta al-anhar. » Les ulama, les mufassirs disent que ce verset est adressé à qui? Aux gens qui font des péchés. Mais malgré cela, si on regarde le sens, les mots, les termes utilisés, c'est un verset rempli d'amour. Asa Rabbukum, il se peut que votre Rabb, et le mot Rabb c'est un terme rempli d'amour, d'affection, c'est celui qui pourvoit, qui nourrit. Alors qu'Allah s'adresse à des gens qui ont fait des péchés. Allah n'a pas dit, oh vous qui avez péché, ya yuhalladina fasakou, ya yuhalladina aznaboula. Allah t'a dit, il parle de ya yuhalladina amen. Non, les versets qui parlent du Tawba, ce sont des versets remplis d'amour, de messages, d'espoir pour que le musulman comprenne bien qu'Allah est capable de tout pardonner. Un exemple très connu, Allah Ta'ala a pardonné à l'homme qui a fait le plus de tort, qui a provoqué le plus de chagrin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus de tort. Plus de tort, c'était Uhud. Et certainement Taïf. L'homme qui a causé le plus de chagrin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wahshi, qui a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a mutilé. Lorsqu'il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander pardon, le prophète a accepté et Allah Ta'ala également. C'est Allah Ta'ala est capable de pardonner à une personne qui a autant affecté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, avec nos péchés, assurément, Allah il peut nous pardonner et Allah nous pardonnera principalement durant ce mois de Ramadan. Si nous sommes sincères, mes chers frères, mes chères sœurs, nous n'imaginons pas la clémence, nous n'imaginons pas la gentillesse d'Allah. Vous savez, dans d'autres religions qu'on ne citera pas, ils disent Dieu est amour. Ils le disent, mais nous, on ne le dit pas assez. Et nous, on n'a pas besoin de dire que Allah est amour. Nous, on dit Allah est le Rahman et Rahim. Et ces deux termes-là, vous ne les retrouvez pas dans les autres religions. Rahman, Rahim. Il y a même, on va dire son nom, ou alors on vous demandera, il y a un homme qui a dit les plus beaux noms de Dieu, pas musulmans, les plus beaux noms de Dieu, ce sont ceux qui se trouvent dans le Coran. Qui a dit ça? Jean-Paul II. Jean-Paul II, l'ancien pape, c'est lui, il a dit, a avoué que les plus beaux noms de Dieu, ce sont ceux qui se trouvent dans le Coran. Donc nous, on ne dit pas qu'Allah est amour, c'est au-delà de ça. Allah est le Rahman, et Allah est le Rahim, et Allah il est pardonneur. Tawwab, Ghafour, Rahim, mes chers frères, nous devons avoir cette bonne pensée, ce husnul dhan billah, qu'Allah me pardonnera durant ce mois, mais à condition d'être sincère. Et en deux minutes, on développera quelque chose que vous connaissez déjà. Comment être sincère de son repentir? Shatani ma bayna hada wa hada. Une différence entre une personne qui se dit, bon, Ramzan est arrivé, toute l'année, samedi soir, mettez en boîte, mettez boire, mettez avec tantine, ou mettez fait telle chose. Ou alors une femme se dit que toute l'année, je m'habillais comme je voulais, je faisais telle erreur, telle bêtise, ou toute l'année, je manquais de respect à mes parents ou autre chose. Ramadan arrive, il nettoie un bon coup. C'est comme si on fait une lessive. Avec une soupline, détergent, avec Javel, nettoie un coup le cœur là. Et après Ramadan, c'est reparti pour un tour. Ah, c'est pas la tête. Allah est Ghafour Rahim. Et 2010, pareil, on va rattraper les péchés de 2009. Et 2011, on rattrapera les péchés de 2010. Vous croyez qu'Allah est dupe? N'a'oud billah. Vous croyez qu'Allah, il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur? Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah, il connaît l'œil qui, comment on va dire ça? L'œil, je n'ai pas la traduction, on ne peut pas dire de bêtises, l'œil qui trompe. Allah, Ta'ala, il connaît également ce qui se cache dans les cœurs. Différence entre ce musulman qui est mal intentionné, qui planifie ses péchés et qui planifie son repentir, son tauba, comme une personne planifie ses périodes de travail et il planifie son congé. N'a'oudou billah, on est qui pour agir comme ça avec Allah? N'a'oudou billah. Différence entre ce monsieur-là et un musulman qui fait des erreurs, il a fait des péchés et lorsqu'il se rend compte, il regrette. Il demande pardon à Allah. Il a fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Zakarullah. Il se rappelle. Allah, pourquoi j'ai fait ça? Fastaghfaru li dhunubihim. Il demande pardon à Allah, mais avec sincérité. Et Allah dit, qui a fait Allah, il pardonne. Subhanallah. Vous pouvez faire du mal à un homme, il peut ne pas vous pardonner toute une vie. Mais Allah, il peut pardonner une vie de péché. Mais à condition, walam yusirru ala ma fa'alu. Ces gens-là, ils ne continuent plus à faire, ils font plus ifrar, ils ne continuent plus à faire ces péchés. Alors donc, pour résumer, un tawbah sera accepté par Allah, il sera qualifié de tawbah al-nasuha. Première condition, c'est quoi? C'est de ne pas retarder de le tawbah, ne pas attendre, ce qu'on appelle at-taswif. Ibn Abbas disait que, le commentaire de Baduri de l'Insan, il disait en commentaire, l'homme il dit Sa'atoub, je demanderai pardon un jour, et qu'est-ce qui se passe? Ya'tihi al-maut ala sharr ma kan alayhi fa yamut alayhi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben Allah ne lui donne même pas tawfiq. C'est pas qu'il a oublié, parce que demander tawba, mes chers frères, mes chers sœurs, c'est tawfiq min Allah. Alors ce musulman dit après demande pardon, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. Pour demander tawbah et l'ange de la mort vient prendre son rôle, il n'a jamais pu demander pardon. Allah Ta'ala, il va rencontrer Allah avec des montagnes de péchés, avec un livre de compte rempli de dhunoub, qu'Allah nous pardonne. Donc, première condition, ne pas tarder. Si on a fait une erreur, immédiatement se retourner vers Allah et demander pardon à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deuxième chose, lorsqu'on parle de Tawbatun Nasuha, comment il faut faire? On fait deux rakats, pour ça m'expliquer à Hadith comment il faut faire. Quand il n'y a pas un musulman qui fait une erreur, fayatawadda, et il fait le wuzu, et il fait deux rakats, et il demande pardon à Allah, mais vraiment avec sincérité, sans qu'Allah Ta'ala ne pardonnera réellement à cette personne. Donc les conditions, Ibn Abbas, il résume ces conditions en disant que pour que le tawba soit considéré comme nasuh, comme sincère, il faut un, an-nadamu bil qalb, regretter. J'ai fait telle erreur, oh Allah, pourquoi j'ai fait ça, oh Allah, je regrette. Celui qui regrette, il est sincère. Mais si on n'est pas sincère, on ne regrettera pas. On l'a fait, hein. De toute fait, là, oh Allah. Et Allah, il sait qu'on regrette vraiment. Et là, la première condition sera remplie. Et on a déjà un tiers du tawbatun nasuha. Un tiers du pardon d'Allah. Wal istighfaru bil lisan, donc demander le fait de faire l'istighfar, demander pardon. Wal ighmar an la ya'uda ilayhi abada. Et la niyat, le niyat ferme, l'intention de ne plus jamais, de jamais recommencer ce péché. Et ça aussi, Allah, il connaît. En quelqu'un qui planifie le retour des péchés après Shawwal, et quelqu'un qui dit, Wallah, jamais plus jamais, Wallah. Allah, il distingue ces deux personnes. Là, notre repentir soit considéré comme un repentir sincère. Et maintenant, même si on a refait l'erreur, on a refait le péché, mais on ne le voulait pas, mais on est tombé dedans, mais on ne voulait pas, même si on le fait, on le fait, et qu'on demande pardon, Allah Ta'ala pardonnera. À partir du moment où le cœur est propre. Mais si quelqu'un le planifie, là c'est différent, là Allah Ta'ala il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et bien sûr, la quatrième condition, c'est remplacer ce qu'on a fait comme erreur. Si c'était des namaz ratés, il faut faire le qaza. Si c'est des zakat qu'on n'a pas donné, on remplace. Des rosas qu'on n'a pas fait, on le remplace, etc. etc. Hein, dans les huququllah, dans les droits d'Allah, on remplace ce qu'on a manqué. Et maintenant, dans les huquq al-ibad, dans les droits des gens, dans une version d'Ibn Abbas, dit qu'il y a trois choses qu'Allah, il y a trois catégories d'actions. Un, Allah il pardonne. Un, Allah il ne pardonne pas. Le troisième, j'ai oublié, j'ai pas le texte sous les yeux. Ce qu'Allah pardonne, c'est huquq Allah. Dans les droits d'Allah, Allah il pardonne. Les péchés, Allah il peut pardonner. Mais ce qu'Allah ne pardonne pas, jamais, sans qu'on ait passé en préambule l'action intermédiaire, c'est les droits des gens. Vous avez volé. Non, c'est-à-dire, vous devez l'argent de quelqu'un, vous avez frappé une personne, vous l'avez humilié en public, vous avez dit du mal à cette personne, tant que vous ne demandez pas pardon à cette personne, passez tous les ramadans de votre vie à demander tawbah à Allah. Allah, il ne peut pas pardonner. Parce qu'il y a le droit des gens qui n'ont pas été respectés. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, ce sont là les conditions pour que notre tawbah soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on a demandé pardon et qu'Allah nous a accordé ce pardon, alors comprenez que Shaytan, il est désespéré. Il y a un tabi'in, j'ai pas le nom, il disait que innal muznib yuznibu fala yaza, en français que le pécheur, il fait des péchés et lorsqu'il regrette, il demande pardon à Allah et cela le fera accéder au paradis. Et lorsque Shaytan voit ça, il dit ya laytani lam uqi'hu fi, j'aurais même pas dû le faire ce péché. Parce que par grâce à ce péché, il a regretté, il est retourné vers Allah et il a amélioré sa vie. À cause de ça, maintenant, il accède au paradis. Et Shaitan est désespéré de ce musulman qui obtient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala, mes chers frères, mes chers soeurs, donne tawfiq de comprendre les paroles qu'on a dit aujourd'hui. Et, un dernier point, comment on reconnaît, ça c'est une parole ajib, hein, dit comment on reconnaît une personne qui a changé sa vie. Une personne qui a changé sa vie après un moment important, que ce soit Hajj ou que ce soit le mois de Ramadan, quelqu'un qui a un renouveau dans sa foi. Elle dit que les signes, c'est quoi? Ahaduhuma, que cette personne, premièrement, à partir du jour où elle a demandé tawbatun nasuha, il y a un tel degré de iman et de désir de se rapprocher d'Allah et une crainte de faire un moindre erreur, que cette personne contrôle sa langue en permanence. Il ne dit rien d'inutile et rien qui est en relation avec des péchés. Ça, c'est le premier signe. Quelqu'un demande tawbatun nasuha, il continue à dire n'importe quoi, blaguer ou alors, pas des paroles neutres, mais à cause de ribat, bohtan, les conditions n'étaient pas réunies, wallahu a'lam. Il dit également qu'on voit que dans le cœur de cette personne, son cœur est propre. Ça, c'est quelqu'un qui a été nettoyé, son cœur est clean, il a été absous de tout ce qu'il y a de mal grâce à son tawbah. C'est dans son cœur, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'animosité face aux autres personnes. Troisième chose, que ça c'est important, que cette personne, vous voyez maintenant, qu'elle s'éloigne des mauvais compagnons. Si j'avais un groupe d'amis tous les soirs, tous les samedis soirs, ils m'amenaient Saint-Gilles, Maintenant, je demandais pardon à Allah, qu'est-ce qu'il faut faire également maintenant? Je ne les fréquente plus. Si j'avais un groupe de camarades, comme il y a dans toutes les mosquées du monde, malheureusement, Fenamaz Yassine, les deux pieds en l'air, séance de ribat commence. Allah Moustan, rentrez chez vous, allez avec madame, allez assister, allez rester auprès de vos enfants, allez aider vos enfants faire ses devoirs, donner de l'amour à vos enfants. Mais par la grâce, par l'amour d'Allah, subhanallah, évitons ces assemblées où on ne fait que ribat bohtan, où on est en train de vendanger nos péchés, nos bonnes actions, et on est en train de prendre les péchés des autres. Il dit qu'un signe de la personne qui vraiment a changé sa vie, c'est qu'il s'éloigne de ces gens qui l'amenait vers le péché. Et quatrièmement, et ça, Allah, et qu'Allah nous donne ce sima, cette qualité, an yakuna musta'iddan lil maut, que cette personne est prête à mourir. N'importe quand malika le maut vient, on pourrait dire comme ça, je signe. Ça n'a pas beaucoup de gens, là. Que n'importe quand l'ange de la mort vient, je peux mourir, je suis prêt, il n'y a aucun problème. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment a été nettoyé et que maintenant son cœur est pur et qu'il a une relation directe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui en même temps, mustaghfiran lima salaf, et ce musulman n'arrête pas à demander pardon à Allah pour les péchés, même qu'il a de 15 ou 20 ans, avec cette crainte qu'Allah il me punit. C'est-à-dire, il a en compte de manière permanente la crainte, l'amour d'Allah dans son cœur et la crainte d'Allah dans son cœur. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah nous accepte vraiment pour vivre ce Ramadan dans le maximum, avec le maximum de conditions pour nous faire parvenir à la taqwa. Que nous puissions accomplir, qu'Allah nous donne le tawfiq plutôt, d'accomplir le maximum de bonnes actions, qu'Allah nous donne la force, le sabr anil ma'asiyah, pour rester éloigné du haram, pour contrôler notre nafs, et qu'Allah nous accepte pour demander pardon sincèrement le tawbatun nasuha, pour que l'objectif du Ramadan soit atteint, la'allakum tattaqun, qu'Allah fasse de nous des muttaqis, des gens dont les cœurs sont remplis de piété et qui en permanence, ils ont raqabatullah, la pensée d'Allah de leur cœur. On fait un petit rappel également que tous les dimanches matin durant le mois de Ramadan, de 10h30, hein, pas 10h, de 10h30 à 11h30, il y aura un programme, là, la semaine prochaine, le 3e, 4e, des différents ulama de Saint-Denis. Et également, aujourd'hui, il y a un programme spécifique, Masjid en ville Nour Islam, pour hommes et dames, pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer. Maintenant, si vous avez un programme local, la priorité, bien sûr, est au programme local. Mais si quelqu'un du côté du centre-ville, c'est un thème qu'il faut aborder, j'allais presque dire, c'est un abcès qu'il faut crever, c'est le problème lié aux personnes âgées, le manque de respect qu'il y a par rapport aux personnes âgées. Je ne dis pas avec les nouvelles générations, ce n'est pas les jeunes. Par rapport même à ceux qui ont 40, 50 ans, c'est le respect des parents et d'une manière générale des anciens. Nous n'avons plus de considération, de respect pour les anciens. Et malheureusement, il y a maintenant trop de cas de parents, de musulmans, parfois même religieux, qui prennent cette décision horrible, inhumaine, d'envoyer leurs parents en maison de retraite. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Mes chers frères, celui qui fait ça, ben Allah musta'an. On va essayer d'aborder ce thème. Il y aura trois intervenants, hein, des petits modules. C'est après Namaz Zohor. Namaz Zohor qui a eu lieu à 15 en ville de centre-ville Saint-Denis. Il y aura trois modules, trois interventions de trois alim différents, 3 fois 15 minutes, donc 45 minutes. Quoique après Zohor, on puisse se reposer comme il faut jusqu'à Asr. Donc on va essayer d'aborder le respect envers les parents. Ça sera le premier thème, Inch'Allah. Et les anciens, de manière générale. Deuxième thème, c'est comment agir avec des parents qui sont âgés. Quand votre papa, votre maman a 40 ans, 50 ans, ça va, tranquille. Mais quand vos parents ont 75, 80 ou 90 ans, c'est plus pareil. C'est plus le même homme. C'est plus la même dame. C'est plus la même mère qui vous a élevé. Comment agir avec des parents qui sont âgés? Et la troisième problématique, c'est, on va aller un peu plus dans le fond du sujet. Qu'Allah t'en ait tawfiq, de comprendre, de faire un mal. Donc l'entrée des dames également sera disponible. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.